Non, il y a des réalités que je ne touche pas directement. La plupart des réalités que le physicien ou le biologiste utilise sont des réalités qu'on ne voit pas directement. On ne voit pas directement la molécule d'ADN avec ses yeux. Pour la mettre en évidence, il faut toute une série d'instrumentations. On ne voit pas directement un trou noir. Hein, pourtant, il en existe un gigantesque au centre de notre galaxie. On ne le voit pas directement, mais on peut indirectement le mettre en évidence par des observations indirectes, etc. Donc, le champ des sciences empiriques, ce sont les choses que, directement ou indirectement, je peux expérimenter, observer, etc. Bon. Ça veut dire que son champ est à la fois large, mais aussi limité, puisque ce qui serait de l'ordre de l'inobservable par des instruments ne serait pas du champ de la science proprement dit. Par exemple, si vous prenez des choses très importantes comme la dignité de l'homme, il n'y a aucun instrument qui met en évidence directement la dignité de l'homme, un détecteur de dignité de l'homme. Il est digne, c'est très bien, non, il n'est pas digne. Non, il n'y a pas d'appareil. Et pourtant, personne n'oserait dire que ce n'est pas important, évidemment. D'accord ? Donc, il y a des choses qui sont très importantes, mais qui sortent du champ de la science empirique. Bon, ça c'est important à savoir, parce que on pourrait avoir l'impression que... Bon, maintenant, certains pourraient prétendre que la dignité n'est qu'une représentation dans le cerveau, et qu'on peut, à l'aide d'une analyse du cerveau, mettre en évidence des choses qui sont liées à la dignité humaine. Mais on pourrait dire, c'est déjà ce qu'on pourrait appeler une sorte de réduction méthodologique du problème. Mais la science, par définition, fait de la réduction. Et si elle réussit, c'est parce qu'elle réduit, justement. Mais le problème, c'est que quand on a réduit, ben, on n'a plus qu'une réduction. Et on a perdu certaines choses. Hein, pour le dire de façon un peu imagée, la science, pour comprendre, la cigogne, pourrait prendre la cigogne, la découper en petits morceaux, voir ce qu'il y a dedans, l'analyser avec la chimie analytique. Et puis, une fois que c'est fini, on dit, tiens, comment la cigogne vole-t-elle? Il n'y a plus que des morceaux. Donc on a réduit pour faire de la chimie analytique, mais il y a quelque chose qui est parti dans cette réduction. Bon. Mais c'est comme ça que la science avance. Et la science, nécessairement, méthodologiquement, doit être réductionniste. Parce qu'elle analyse. Et toute analyse est nécessairement une réduction. Mais ayant réduit, forcément, quelque chose est peut-être parti, d'accord, du phénomène. Et donc, on ne doit pas s'étonner que la science, comme telle, a une série de limites, qui ne sont pas liées au fait qu'elle n'est pas assez forte, etc. Mais elle a des méthodes qui laissent échapper quelque chose, d'accord. Et parfois, ces méthodes cache, obscurcisse, empêche de voir le cœur de certains phénomènes qu'elle prétendrait décrire. Donc, par exemple, si vous prenez... parfois, je donne cet exemple-là à mes étudiants qui sont en biologie et qui, pour eux, la réalité ne s'explique que par des cellules, puis par des molécules, des atomes, etc. Et alors, je leur dis, mais... je ne sais pas, probablement que vous avez tous expérimenté le sentiment d'amitié, d'amour, etc. Alors ils disent, ben oui. Je leur dis, eh bien, vous allez me décrire ça par la science, par la biologie. Puisque vous dites, tout s'explique par la biologie, vous allez m'expliquer ça par la biologie. Bon. Alors, ils disent, oui, mais on peut, tout ça n'est qu'une question d'hormones, de neurones, de fonctionnement moléculaire, etc. Et alors, j'ai dit, très bien, peut-être je vous crois, hein, mais prenons l'expérience suivante. La prochaine fois que vous verrez votre ami, etc., imaginons que vous alliez chez quelqu'un que vous appréciez et vous apportiez à cette personne que vous aimez bien, des chocolats, hein, ou bien des fleurs, vous choisissez l'exemple que vous préférez. Et alors, vous offrez des chocolats. Et la première chose que la personne vous dit, parce que la personne chez qui vous allez, c'est un biologiste, très haut niveau, et qui dit, prend le paquet, et dit, mais avant, je ne peux pas accepter, je veux comprendre pourquoi. tu m'as donné ça. Et je vais donc d'abord savoir ce que c'est. Et j'envoie le chocolat au laboratoire et on découpe en 1000 morceaux, on fait de la chimie analytique, on voit s'il y a pas, est-ce qu'il y a du cyanure peut-être, donc ça c'est pas, et, ou bien on voit non, il y a que des protides, des glucides, des sels minéraux, bon. Et puis après, je reviens près de la personne qui attend, parce que je suis parti au laboratoire et la personne attend et devant ma porte et je dis mais maintenant j'ai compris ce qu'il y avait dedans, ça je commence à comprendre, mais je ne comprends pas pourquoi tu me l'as donné. Alors on dit oui mais c'est parce que je t'aime bien. Hein. Et moi je ne comprends pas ce que ça veut dire ça. En biologie aimer bien, c'est un concept obscur, vague. Moi il faut des molécules moi. Bon pour comprendre il faut savoir ce qui s'est passé dans les neurones, dans les synapses, comment les circuits se sont connectés pour déclencher une action motrice qui est de transmettre le ballotin de praline à la personne. Bon. Et pour ça, il faut, si tu me le permets, venir dans un laboratoire de neurophysiologie. Et puis refaire le geste, essayer de se mettre en condition. On va t'injecter un petit traceur radioactif, c'est pas douloureux. Et comme ça, on verra s'activer les zones dans ton cerveau qui sont liées à cette espèce de transmission d'une structure qui contient du sucre, des graisses, bon. Et la personne se soumet à ça et au bout d'un certain moment, commence à comprendre les zones qui s'activent quand, bon, au bout de 3 mois, et on commence à plus ou moins comprendre ce qui s'est passé, etc. Bon. Alors, je dis souvent aux étudiants, voilà, donc on a bien compris maintenant ce qui s'est passé, on a vu les zones qui s'activaient, on a des modèles de la représentation mentale, etc. De deux choses l'une, ou bien la personne vous aime beaucoup et résiste à tous ces tests, d'accord, et revient encore, mais avec une grande probabilité, si vous lui refaites ça 2 fois, 3 fois, la personne va s'en aller. Je veux dire, pourquoi? Mais parce que d'une certaine manière, ce qui est en jeu dans l'amour, l'amitié, etc., ne supporte pas la réduction, justement, ne supporte pas la décomposition en 1000 morceaux. De la même façon que si quelqu'un est devant vous et que sans cesse vous le considérez comme un objet d'observation, vous ne lui dites pas mais c'est votre ami, mais subrepticement vous le psychanalysez en cachette, vous l'observez, et il a dit ça, oui mais enfin peut-être que ça c'est lié à son enfance et que la structure de son inconscient a suggéré, etc. Puis dès qu'il dit un mot, oui, ça doit être un neurotransmetteur dans telle connexion synaptique qui a, oui, maintenant je comprends, etc. Et progressivement, vous regardez la personne comme on regarde un animal dans un laboratoire. Vous ne le regardez pas pour ce qu'il est en tant qu'animal, vous le regardez en tant qu'objet de votre expérimentation. Mais si vous transformez la personne en objet d'expérimentation, bien souvent, ça casse le lien d'amitié, d'amour. Pourquoi ? Et parce que justement, l'amitié, l'amour ne supportent pas, on pourrait dire, même si de temps en temps il faut être lucide dans les relations humaines, mais l'amitié, l'amour ne supportent pas cette analyse, cette espèce de réduction qui décrit, qui détruit ce qui est en jeu dans la relation, si vous voulez. C'est pas que la réduction soit illégitime. Hein. C'est vrai qu'il s'est passé des choses dans notre cerveau quand on a offert du chocolat ou des fleurs, etc. C'est vrai qu'il se passe des choses dans notre corps qui peuvent être décrites parfaitement par la neurophysiologie, par l'endocrinologie, Dieu sait quoi. Mais ce n'est peut-être pas vrai que tout ce qui s'est passé dans cette relation est réductible rien qu'à ça. La preuve, c'est que même les plus grands biologistes ne serait pas prêt à dire qu'on comprend tout de nos relations humaines simplement en faisant appel aux molécules ou aux réseaux neuronaux. Et même s'ils le disent, je veux dire, dans la pratique même de leurs relations, c'est très difficile d'aller lire tout en termes simplement moléculaires. Et si vous le faites, alors vous détruisez la relation. Alors ça, c'est typique de la méthodologie scientifique. Pour vous donner encore un exemple, du fait que le regard de la science est très puissant Et loin de moi l'idée de dévaloriser la science, parce que je crois qu'elle a une portée, une grande portée. Mais seulement, dans certains cas, la méthode se retourne contre la description du phénomène qui est en jeu. Je prends un exemple. Donc, dès qu'on objective, on risque de bloquer un certain nombre de choses, et donc la richesse du phénomène ne se donne plus. Alors, un exemple typique que moi j'avais connu quand j'étais assistant, et quand on arrive comme jeune assistant, mais évidemment, le sort tombe toujours sur les plus jeunes, donc les tâches les plus difficiles ou les plus ennuyeuses sont données aux assistants, et on m'avait dit, voilà, il faut être assistant d'un professeur qui fait un cours avec des médecins, des apprentis médecins, des étudiants en médecine, et c'était un cours de psychologie dans lequel on apprenait aux médecins à dire un certain nombre de choses aux patients. Donc on leur disait, voilà, vous allez dire à un patient qu'il est en phase terminale, enfin qu'il risque d'être en phase terminale dans 2 mois, et vous allez lui annoncer ça. Comment allez-vous faire pour annoncer une vérité à un patient? Et donc, pour un petit peu voir comment les étudiants faisaient, on les mettait en situation, on demandait à quelqu'un de jouer le rôle du patient, l'autre jouait le rôle du médecin, et puis dans le fond de la classe, il y avait le professeur et puis l'assistant qui est là pour que le professeur ne s'endorme pas ou bien pour prendre les notes, etc. Et on observait. Mais en fait, ce que nous observions, dans le fond, ce n'était pas la manière dont l'étudiant disait quelque chose à un patient. On apprenait simplement la manière dont l'étudiant se comportait pour être sûr d'avoir une bonne note en regardant de temps en temps la mine du professeur et corrigeant en fonction de ce que le professeur disait. Donc le fait que l'étudiant était sous observation faisait effectivement que quelque chose du phénomène relationnel était évacué. Alors j'ai fait remarquer cela au professeur en disant mais bon, ça ne va pas ça, parce qu'on voit bien que l'étudiant est perturbé, donc il n'est pas naturel, etc. Il a dit mais pas de problème, il existe juste à côté un système d'observation des singes capucins. Donc les singes capucins, ce sont des petits singes, et qui sont très malins. Ils sont capables de mettre des CD dans une machine, de décrocher un téléphone, d'ouvrir un frigo et de prendre une bouteille, etc. Et donc on étudiait leur comportement pour aider des personnes handicapées, etc. Mais le problème, c'est que les singes capucins sont très malins, mais ils sont parfois très agressifs. Et donc la plupart des étudiants qui ont étudié les singes capucins se sont retrouvés à l'hôpital parce qu'ils mordent. Alors on a essayé de les socialiser, on les lançait dans l'université pour qu'ils s'habituent, mais ils ont mordu les secrétaires, etc. Bon. Donc on a supprimé ça, mais il restait les salles. Il restait des salles où on observait les singes capucins. Et en fait, c'était simplement des salles avec des vitres sans teint derrière lesquelles les expérimentateurs étaient. On regardait, le singe ne nous voyait pas, etc. Bon. Alors on a dit, on va mettre les étudiants dans la salle des singes capucins et le professeur et l'assistant derrière la vitre sans teint, etc. Bon. Mais on a obtenu des résultats encore moins bons parce que tout le monde a regardé des films policiers et sait que s'il y a un miroir dans une salle et qu'il n'y a personne, bon, c'est sûrement derrière qu'il y a quelqu'un, et donc, etc. Bon. Donc finalement, la présence même de l'observateur et de sa méthodologie, etc., a complètement perturbé la chose, si bien qu'on ne voyait rien des vraies capacités de l'étudiant à se comporter devant un patient. Donc, ce n'est pas que la méthodologie ne sert à rien, mais dans certains cas, et surtout en ce qui concerne l'anthropologie, si vous voulez, il y a des choses de l'homme qui font le propre de l'homme, qui semblent disparaître quand on a le regard objectivant. Alors si on pousse vraiment ça au bout, si on ne voit plus l'homme comme un objet d'expérimentation, alors évidemment ça frise non seulement la barbarie, mais il y a des choses profondes de l'homme qu'on ne voit plus. C'est le regard du scientifique qui ne voit plus un malade, mais qui ne voit plus qu'une pathologie. Hein. C'est ce qu'on voit parfois dans certains... Moi, j'ai vu ça dans des hôpitaux universitaires où on amenait des patients devant des amphis avec beaucoup d'étudiants. Et alors, on montrait, c'était pas madame une telle ou monsieur un tel, etc., mais c'était une pathologie. Donc, le professeur, on amenait le malade devant tout le monde, et puis on enlevait la couverture, et on disait, regardez, là, ça, c'est telle pathologie, etc., tout, vous voyez ceci, ah oui, vous voyez, ça, c'est ce qu'on a vu au cours, regardez, puis on remballait la personne sans même dire au revoir, etc. Bon. Donc, ça, c'est typique du regard que la science peut avoir sur des malades. On dira c'est simplement la chambre 324, on ne dira plus son nom, ou c'est le beau cancer de la chambre 14. Vous voyez ? Bon, mais quand on a dit ça, toute la personne disparaît, si vous voulez. À la fois, c'est vrai que c'est ça, mais à la fois, il y a quelque chose qui s'est évacué et qui, par ce regard-là, est incapable de voir tout autre chose. La dignité, certains sentiments, etc., etc. Bon. Poussé à bout, c'est le regard déshumanisant qu'on pourrait avoir. Mais, donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas que la science ne soit pas assez forte, ou ce n'est pas parce que la science ne verrait pas ce qu'elle doit voir. Elle peut voir dans les sentiments des molécules, elle peut voir dans la conscience des neurones. Oui, elle a tout à fait raison, parce que de fait, il y a ça. D'accord ? Mais il n'y a peut-être pas que ça. Oui. Et sa méthodologie a peut-être évacué ou détruit par le fait même de sa méthode des choses qui seraient très importantes. Si, mademoiselle, on vous offre un jour des fleurs, et que systématiquement vous envoyez ça dans un laboratoire de botanique, ou que vous les découpez avec un scalpel pour étudier la structure biologique de cela, si vous faites ça 20 fois, 30 fois, et si vous ne voyez plus que ça, eh bien, quelque chose, vous aurez manqué peut-être quelque chose. Hein. Les fleurs sont le symbole de l'amour, de l'amitié, etc., mais elles ne peuvent pas, d'une certaine manière, être réduites à ça. Hein. Les fleurs, c'est pas l'amitié. Hein. Il y a quelque chose dans l'analyse qui est parti. Bon, donc ça pour dire que les sciences, dans leur ordre, voient tout ce qu'elles ont à voir, mais elles ne voient peut-être pas le tout. D'accord ? Elles s'étendent dans un plan qui n'a pas de limite, d'accord ? Mais il n'est pas dit qu'il n'y a qu'un plan. Oui ? Il y a peut-être une profondeur, un volume, oui, que la science ne voit pas. Bon. Donc il serait à la fois embêtant de dire non, la science a des limites et il faut restreindre la science. La science ne donne pas accès, enfin ne peut pas aller voir ce qu'il y a dans le cerveau quand on parle de sentiments. Non, elle peut, d'une certaine manière, si elle respecte un certain nombre de consignes éthiques, elle peut. C'est pas là où se trouve la limite de la science. La science, d'une certaine manière, dans son ordre, oui, n'a pas de limite. On peut toujours accroître le savoir scientifique et on peut toujours se poser des questions. Mais si elle voit tout ce qu'elle doit voir dans son plan, elle ne voit pas nécessairement ce qu'il y a dans une autre direction. Oui. Parce que ça n'entre pas dans sa méthodologie. La dignité, l'amour, l'amitié au sens profond ne sont pas liés à une expérimentation au sens de la science. Il n'y a pas d'appareil mettant en évidence directement cela. C'est ça que je veux dire. Maintenant, contrairement à la... Autrement dit, la science ne voit pas au-delà, d'une certaine manière, de ses expérimentations. Or, il y a quelque chose de très important que la philosophie et la théologie, disons, voient et appréhendent, c'est justement la question du sens. Et la question du sens. Alors, la question du sens, la science la met entre parenthèses. Alors, le sens de quelque chose, le sens de quelque chose, c'est d'une certaine manière, par définition, la réalité dont ce X serait, et ceci, conditionnel, serait le signe. Je vais expliquer, parce que ça c'est du blabla peut-être de philosophe, mais quand on dit le sens de quelque chose, voyez, je fais ça, d'accord ? Je fais ça. Qu'est-ce que je fais ? C'est ça. On vous fait ça. Alors, je ne sais pas, on dit, mais c'est un mouvement de macromolécules oscillatoires, de fréquences, je ne sais pas, deux oscillations à la seconde, etc. Est-ce que c'est ça ? Mais on a dit, ben, non, ça c'est parce que vous êtes physicien, mais ça c'est pas simplement un mouvement de macromolécules, etc. Il dit bonjour. Et Il dit bonjour. Bon, mais il dit bonjour. Bon, bonjour, si vous regardez dans la main et vous l'étudiez en biochimiste, vous ne verrez jamais bonjour. Et vous avez beau, ah bonjour. Oui, j'ai découvert bonjour. Ou la molécule du bonjour. Non, il n'y a pas de molécule bonjour. Pourtant, quand on fait ça, les gens disent, ah oui, il m'a dit bonjour. Bon, alors, réalité, bon, ça, c'est ça. D'accord ? Ça, c'est ça. Et quel est le sens de ça ? Mais dans le fond, le sens de ça, c'est la réalité, éventuellement hypothétique, hein ? Bon, c'est une réalité, dont ça est le signe, le symbole. D'accord ? Donc ça n'est pas le bonjour, mais ça est le symbole du bonjour. D'accord ? De la même façon que tout à l'heure, les fleurs sont le symbole de l'amour, ou les chocolats, le symbole de l'amitié, mais c'est l'amitié n'est pas le chocolat. L'amour n'est pas la fleur. Mais la fleur et le chocolat sont signes, symboles d'une réalité qu'elle signifie. C'est ça la question du sens. Le sens, c'est ce dont cette réalité X est le signe. Autrement dit, la question du sens, c'est le décryptage sous des symboles, sous des traces, des vestiges, si vous voulez, des indices. C'est le décryptage d'une réalité hypothétique dont ces indices seraient comme le signe. Par exemple, on pourrait dire, le visage, qu'est-ce que c'est quand on regarde un visage humain, d'accord ? On va voir plus que des tissus. Si je regarde une personne, je ne regarde pas cette personne comme un amas de molécules. Quand je le regarde en ami, je ne regarde pas comme une structure simplement décrite par l'histologie, la science des tissus. Non, je vais voir plus que ce que je vois. D'accord ? Comme Lévinas, le philosophe juif, disait, c'est je vois l'infinie transcendance du visage de l'autre. Le visage est quelque chose qui renvoie à plus que le visage. La preuve, c'est que, bon, quand on ne voit que les molécules, alors il y a quelque chose de profondément déshumanisant, on a perdu quelque chose de l'homme.